Il est 5h30 en temps universel. Nanit Talani au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette session d'information de ce mercredi 16 octobre 2024. Au menu, inondation en Afrique, 10 millions d'enfants privés d'école, alerte Save the Children. Immigration en Europe, la Commission européenne prévoit des actions plus fermes pour 2024. Ici aux États-Unis, un juge en Géorgie maintient l'obligation de certifier les résultats électoraux, rejetant les objections républicaines. Israël doit améliorer l'assistance humanitaire dans la bande de Gaza sous 30 jours. 37 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, son ancien compagnon Ismaël Diallo souligne son héritage durable.
Sankara était panafricaniste. Pas panafricaniste simplement pour que l'Afrique soit unie. Il était panafricaniste par nécessité.
Page économique, l'Ouganda signe un contrat pour une ligne ferroviaire électrique vers le Kenya. Et puis en sport, Cannes 2025, le Sénégal et la RDC parmi les premiers qualifiés après la quatrième journée des éliminatoires. Restez avec nous pour davantage de détails sur ces sujets et bien plus encore. Voici le journal. 10 millions d'enfants sont privés d'école par des inondations massives en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a annoncé hier Save the Children. L'organisation d'aide aux enfants appelle les donateurs à soutenir l'assistance aux populations touchées. Les détails avec Jean-Roger Bian.
Les 10 millions d'enfants coincés chez eux ou déplacés s'ajoutent aux plus de 36 millions empêchés d'aller en classe par des conflits ou la pauvreté, dont plus de 21 millions au seul Nigeria, a fait savoir Save the Children en citant des chiffres de l'UNESCO. Depuis le début de la saison des pluies, des déluges d'eau se sont abattus sur de vastes étendues, provoquant des crues et des inondations qui ont fait des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés au Tchad, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée ou encore au Cameroun. Elles ont affecté des millions de personnes, causé des dégâts considérables aux infrastructures et aux terres et aggravé les risques de maladies et d'insécurité alimentaire. Save the Children exhorte les gouvernements et leurs partenaires à offrir urgemment des alternatives aux enfants privés d'école et à agir pour protéger davantage les établissements scolaires des événements extrêmes à l'avenir.
La Commission européenne va proposer au cours de son nouveau mandat qui débute le 1er décembre des mesures visant à durcir la position de l'Union européenne en matière d'immigration. Davantage avec Yacouba Ouédraogo.
Au cours du prochain mandat, la Commission continuera à veiller à ce que nous soyons justes et fermes sur la question de l'immigration. Ce sont les mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle envisage de conclure davantage d'accords avec les pays d'origine ou de transit des migrants, à l'instar des accords déjà existants avec la Turquie, la Tunisie et la Libye, dont les gouvernements reçoivent des fonds européens pour lutter contre les traversées illégales et le trafic de migrants. La patronne de l'exécutif européen a aussi cité l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali parmi les pays avec lesquels l'Union européenne devrait travailler. Elle a ajouté que les migrants n'ayant pas de droit de rester dans l'Union européenne pourraient être envoyés dans des centres de retour dans des pays tiers avec lesquels l'UE va conclure des accords. Les entrées irrégulières dans l'Union européenne en 2023 ont représenté moins d'un tiers du million d'entrées enregistrées au plus fort de la crise en 2015. L'immigration reste cependant un sujet sensible qui pèse sur les élections dans la plupart des pays européens et qui renforce les partis d'extrême droite dans des pays tels que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Le régime militaire du Niger a débaptisé plusieurs rues et monuments à Niamey portant des noms français, marquant une rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Lors d'une cérémonie, des responsables ont remplacé le nom de l'avenue de Gaulle par celui de Dibo Bakary, un leader de l'indépendance, et ont transformé un monument dédié aux guerres mondiales en hommage aux victimes de la colonisation. Les nouvelles appellations reflètent une volonté de rendre hommage aux héros nationaux et aux luttes anticoloniales dans une démarche affirmant la souveraineté du pays. Un tribunal kényan a rejeté le recours du vice-président Rigathi Gachagua qui cherchait à bloquer un débat et un vote crucial au Sénat. Gachagua, accusé d'insubordination et de détournement de fonds, avait contesté la procédure de destitution, la qualifiant d'injuste. La Haute Cour a souligné que son cas soulevait des questions juridiques importantes et nécessitait un examen approfondi. Gachagua a annoncé son intention de faire appel. Si la destitution est approuvée au Sénat, il deviendrait le premier vice-président écarté selon la procédure prévue par la Constitution de 2020. Le Comité international de la Croix-Rouge a alerté sur l'augmentation alarmante de la malnutrition sévère chez les enfants dans le nord-est du Nigeria, déjà touché par une insurrection djihadiste. La malnutrition infantile a augmenté de 24% cette année, avec des cas sévères en hausse de 39,5% dans les hôpitaux soutenus par le CICR. Au troisième trimestre 2024, 8490 cas ont été signalés contre 6824 l'année dernière. Les inondations liées au changement climatique aggravent la crise alimentaire, rendant difficile pour les familles de se nourrir. Plus de 6 millions de personnes dans la région du lac Tchad devraient faire face à des pénuries alimentaires dans les mois à venir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les responsables électoraux de l'État de Géorgie, l'un des États où pourrait se décider le scrutin présidentiel américain, ont pour obligation de certifier les résultats qui leur sont transmis d'après une décision de justice. Les détails avec Dilidico.
Le juge Robert McBurney est saisi d'une contestation de nouvelles règles édictées en septembre par la commission électorale de l'État, favorable à l'ex-président et candidat républicain Donald Trump, qui inquiète le camp démocrate. Ces nouvelles règles incluent le recomptage à la main des bulletins de vote, en plus de celui déjà effectué par les machines. Dans sa décision lundi, le juge rejette le recours d'une responsable électorale républicaine du comté de Fulton à Atlanta, demandant la reconnaissance de son pouvoir discrétionnaire de ne pas certifier les résultats en cas de suspicion d'erreur ou de fraude. La certification ne fait pas partie des pouvoirs discrétionnaires des responsables électoraux qui sont tenus de s'acquitter de cette obligation dans les délais prescrits par la loi, a-t-il indiqué. En cas de doute ou d'inquiétude quant à la régularité des résultats, ils doivent en saisir le procureur compétent, précise le juge McBurney. Si les responsables électoraux avaient la latitude, comme le réclame la requérante, de jouer le rôle d'enquêteur, de procureur, de jury et de juge, et ainsi, en concluant unilatéralement à une erreur ou une fraude, de refuser de certifier les résultats, les électeurs de Géorgie seraient réduits au silence, a conclu le juge. En Géorgie, le vote anticipé a commencé mardi.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son opposition à un cessez-le-feu unilatéral au Liban, arguant qu'il ne changerait pas la situation sécuritaire et permettrait au Hezbollah de se regrouper et de se réarmer. Lors d'une conversation avec le président français Emmanuel Macron, il a souligné que ce type de cessez-le-feu ne serait pas efficace face aux menaces actuelles. En réponse, le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré que la seule solution pour mettre fin à la guerre était un cessez-le-feu. D'après lui, son mouvement ne serait pas vaincu par l'armée israélienne qui mène une offensive terrestre au Liban depuis fin septembre. Qassem a également affirmé le droit du Hezbollah à attaquer Israël sur l'ensemble de son territoire en réponse aux bombardements. Par ailleurs, les États-Unis mettent en garde Israël sur le maintien de l'assistance américaine sans amélioration de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, lui donnant un délai de 30 jours, a indiqué hier le Département d'État. Alexandrine Ollonion.
Cet avertissement figure dans une lettre datée de dimanche et adressée aux autorités israéliennes par les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Anthony Blinken et Lloyd Austin. Dans la lettre, Blinken et Austin déplorent le faible niveau actuel de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et indiquent des changements à faire pour améliorer l'aide. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, qui a révélé le contenu de la lettre à la presse, évoque un délai de 30 jours pour opérer ces changements. La loi américaine exige que les bénéficiaires de l'aide militaire américaine ne refusent ni n'entravent arbitrairement l'acheminement de l'aide humanitaire américaine. Israël a intensifié récemment ses opérations dans le nord de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de personnes sont prises au piège, selon les Nations Unies. L'ONU a estimé mardi que la population de la bande de Gaza était confrontée aux pires restrictions limitant l'aide humanitaire depuis un an.
Voilà pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, la page économique. Voici les dernières nouvelles économiques et financières avec Firmin Max Kouyaweda.
L'Ouganda a signé un contrat de 2,7 milliards d'euros avec le groupe turc Yapı Merkezi pour la construction d'une ligne ferroviaire électrique devant relier ce pays enclavé au Kenya, a déclaré le ministre ougandais des Transports mardi. Les travaux de construction doivent débuter en novembre prochain et durer 4 ans. Des millions de personnes en Afrique australe sont confrontées à la pire crise alimentaire depuis des décennies, a déclaré mardi le Programme alimentaire mondial. Face à des conditions de sécheresse sans précédent, 5 pays, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, ont déclaré l'état de catastrophe et demandé une aide humanitaire internationale, a indiqué l'Agence des Nations Unies. L'Angola et le Mozambique sont également très touchés et près de 21 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Et pour finir, l'avionneur américain Boeing a annoncé mardi plusieurs mesures pour renflouer sa trésorerie mise à mal par des problèmes récurrents de production. La trésorerie de l'avionneur fond à mesure que perdure la grève de plus de 33 000 ouvriers dans le nord-ouest des États-Unis et les crashs d'avions de 2018 et 2019 qui avaient fait 346 morts au total et la pandémie de COVID-19.
C'était tout pour les nouvelles économiques. À présent, plongeons-nous dans le monde sportif sous la direction de Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Fin hier des matchs de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec de nouveaux qualifiés pour la phase finale.
Et oui, à commencer par le Sénégal qui a composté son ticket à la faveur de cette 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Opposés au Malawi, les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0, suffisant pour se qualifier car comptant désormais 10 points en 4 journées. Il n'y a donc plus de suspense dans la poule L car dimanche, le Burkina Faso, leader du groupe au goal average, a arraché le premier ticket en battant le Burundi. Burundais et Malawites ne seront donc pas du déplacement du Maroc.
Autre qualifié, la République démocratique du Congo.
Grâce à leur victoire 2-0 devant la Tanzanie, les Léopards totalisent 4 succès en 4 matchs dans la poule H et arrachent leur ticket de qualification. Ça passe aussi pour l'Angola, vainqueur 1-0 du Niger. 4 matchs, 4 victoires donc pour les Palancas Negras. Loin devant la grosse déception, le Ghana battu 2-0 par le Soudan. Les Black Stars ne comptent que 2 points en 4 journées et n'ont plus que 2 matchs pour espérer se qualifier. Le Gabon, lui, s'est relancé en dominant le Lesotho 2-0 pour occuper la 2e place du groupe B, derrière le Maroc déjà qualifié en tant que pays hôte, mais qui a encore atomisé la République centrafricaine 4-0. La Tunisie a été accrochée par les Comores, 1-0.
Opération relance aussi réussie par le Rwanda.
Les Rwandais ont pris le dessus sur le Bénin 2-1, 1-1 entre le Congo et l'Afrique du Sud. Les Guinéens aussi se sont relancés en dominant l'Éthiopie 3-0 avec un doublé de leur attaquant Serou Girassi. Le Mali a été tenu en échec par la Guinée-Bissau. La Zambie y est presque après sa victoire 1-0 face au Tchad. Surprise, la Côte d'Ivoire, championne en titre, a été battue par la Sierra Leone 1-0. Avec 9 points et en tête de leur groupe, les éléphants devront encore attendre pour assurer leur ticket de qualification. Le Cameroun a arraché son ticket de même que l'Algérie et l'Égypte.
Pour terminer, Yacouba, en Europe, on jouait. L'Espagne a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.
Championne d'Europe cet été en Allemagne, l'Espagne tenante du titre s'est qualifiée en battant la Serbie 3-0 lors de la 4e journée. Les champions d'Europe restent toujours invaincus en compétition officielle depuis mars 2023. Luis de la Fuente a évolué avec une équipe remaniée sans aucun joueur du Real Madrid, du FC Barcelone ou de l'Atlético. La Roura affrontera le Danemark et la Suisse les 15 et 18 novembre prochains. Pour
poursuivre son impressionnante série et valider sa première place. Le Portugal, lui, a laissé filer ses premiers points en Ligue des Nations, accroché 0-0 à Glasgow par l'Écosse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Avant de clore cette session d'information, voici notre section magazine. Le 15 octobre marque l'anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara au Burkina Faso. 37 ans après sa mort, l'un de ses anciens compagnons de lutte revient sur l'héritage de Sankara et l'influence durable qu'il a laissée. Suivez Ismaël Diallo depuis Ouagadougou au téléphone d'Eric Manirakiza.
En tant que leader, j'ai vu en lui un homme d'action, un homme de réflexion et de contradiction. En cela qu'il il acceptait la contradiction, contrairement à ce que beaucoup ont dit. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que lorsque nous étions en désaccord sur un point, un, deux, trois jours après, il revenait vers moi et il me disait « j'ai réfléchi, je conserve mon idée ». Ou bien il disait, j'ai réfléchi, je crois que tu as raison. Et c'est ainsi qu'un débat n'était jamais clos sans avancer, sans aller au plus loin qu'on pouvait.
Quels étaient les principaux objectifs de la révolution que vous meniez ensemble?
Sankara, tout ce qu'il faisait était le résultat d'une maturation. On pouvait aisément discerner, que c'est tout au long de sa jeunesse, de sa vie, qu'il a compris la société dans laquelle il vivait et qu'il avait chevillé au corps le souci du mieux-être de la collectivité, mais vraiment du mieux-être de tous. Il avait un souverain mépris de l'abondance pour quelques-uns, du confort pour quelques-uns. Sankara était extrêmement, extrêmement soucieux de l'amélioration constante de la vie des gens, et surtout des gens les moins fortunés.
Et pensez-vous que ces idéaux sont toujours pertinents dans le Burkina Faso d'aujourd'hui?
Oh, tout à fait. Il n'y a rien de plus pertinent que ce que Sankara a voulu, non seulement au Burkina, mais je dirais partout en Afrique, pour ne parler que du continent africain.
Et comment décririez-vous la vision de Sankara pour l'Afrique et sa place dans le monde?
Sankara était panafricaniste, mais pas panafricaniste simplement pour que l'Afrique soit unie. Il était panafricaniste par nécessité, comprenant que la Haute-Volta d'abord, le Burkina Faso ensuite, tout seul, vraiment ne pesait pas dans l'échiquier international. Avant l'accession au pouvoir le 4 août 1983, nous discutions de la ligne qu'il faudrait prendre au niveau régional et continental et international. Et au plan régional ou sous-régional, il était clair pour nous qu'il fallait rapidement travailler à l'intégration. L'intégration vraiment à l'union des pays, de l'Afrique de l'Ouest ou tout au moins de quelques pays en Afrique de l'Ouest.
Et comment voyait-il la lutte pour l'indépendance économique et politique du continent?
Pour lui, l'indépendance, la souveraineté, la dignité, l'intégrité commence par se suffire à soi-même. Et il a dit une fois, vous voulez savoir comment est-ce que vous êtes dépendant? Vous voulez savoir comment est-ce que vous n'êtes pas indépendant? Eh bien, n'allez pas loin, n'allez pas chercher l'impérialisme loin. Il est là devant vous, il est dans le riz que vous mangez.
Ismaël Diallo, l'un des anciens compagnons de Thomas Sankara.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier qu'il réactivait les investigations sur les crimes commis depuis janvier 2022 dans la région du Kivu. Il répond là à deux requêtes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Eddie Isango a joint à Kinshasa le chargé de communication de la CPI au bureau de Kinshasa, Patrick Tibouyi.
La déclaration qui a été faite par le bureau du procureur est une réponse au renvoi qui avait été soumis par le gouvernement de la RDC en mai 2023 concernant des crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu. Alors, après la phase préliminaire où le bureau du procureur est en train d'analyser si ce renvoi avait trait au premier renvoi tel que ça avait été fait, parce qu'il faut rappeler que pour la RDC, nous avons eu deux renvois. Le premier renvoi avait été fait en mars 2004 et avait abouti à des enquêtes qui avaient été ouvertes par le procureur en juin 2004.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui peuvent être visés par ces enquêtes et quels sont ces crimes qui peuvent être visés par ces enquêtes qui vont commencer?
Dans sa déclaration, le bureau du procureur dit bien que ces présumés crimes de l'honneur que vous, qui ont été commis par des membres des différents groupes armés et des forces armées, feront l'objet des enquêtes, mais également il a eu à rappeler que ces enquêtes dans la province du Nord Kivu ne vont pas se limiter pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Au contraire, le bureau va examiner de manière globale, indépendante, les responsabilités de tous les auteurs de crimes présumés ayant été commis dans la province du Nord Kivu. Donc maintenant, c'est la phase des enquêtes et le bureau du procureur va identifier les auteurs présumés des crimes relevant du statut de Rome qui a été commis depuis janvier 2022.
Et pourquoi seulement depuis janvier 2022, pas avant?
Il faut signaler que pour ce qui est des enquêtes dans les Kivu, nous avions déjà eu deux mandats d'arrêt qui avaient été délivrés tant ans, un mandat d'arrêt contre Calixte Marushimana, un mandat d'arrêt également contre Sylvestre Bamuda Chumura. Tous les deux étaient poursuivis pour des crimes commis dans les Kivu. Mais les charges n'avaient pas été confirmées pour Calixte Marushimana. C'est comme ça qu'il a été libéré du quartier pénitentiaire et qu'il n'a pas eu de procès. Tandis que pour Sylvestre Bamuda Chumura, il fait toujours l'objet du mandat d'arrêt délivré par la Cour, mais actuellement il est en fuite. Donc ce sont là deux personnes qui ont fait l'objet et des enquêtes, conséquences des enquêtes ouvertes lors du premier renvoi qui avait été fait par la RDC, qui avait porté sur des crimes commis depuis le 1er juillet 2022. Calixte Marushimana et Sylvestre Bamuda Chumura étaient les responsables au moment de la défense de mandat, les responsables des groupes FDLR. Et donc, ils étaient poursuivis par le bureau du procureur pour des crimes relevant des crimes graves qui auraient été commis dans les Kivu. Et ça, c'est à côté des autres affaires qui, toutes les quatre, sont des affaires qui concernaient la province de l'Ituri.
Patrick Tibouyi, chargé de communication de la CPI au bureau de Kinshasa.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Des experts de l'ONU ont dénoncé une mise en danger des migrants et des réfugiés en Tunisie lors d'opérations de secours en mer ou de transferts vers les zones frontalières. Ils rapportent des manœuvres risquées, incluant des violences et des chavirements de bateaux lors des interceptions. Pour en parler, Eric Malirakiza a joint l'ancien député tunisien installé en Italie, Madi Karbaï.
Il y a à peu près une quarantaine des associations et des organisations qui ont signé un appel pour que la Tunisie n'est pas considérée comme un pays sûr pour les migrants. Malheureusement, la situation, je parle économique et politique, n'est pas stable. On a vu en 2023 comment ça a été le traitement des migrants, une déportation des migrants vers les zones frontalières avec les frontières libyennes et aussi avec les frontières en Algérie. Et même s'il y a des morts, on a suivi l'affaire de Fatih et Marie, une mère et sa fille qui sont morts sur les frontières tunisiennes et libyennes. Donc malheureusement, il n'y a pas un respect vers les migrants et aussi vers les personnes qui ont demandé soit la protection ou bien soit d'être accueillir en Tunisie. C'est une situation très très compliquée. Aussi bien, il n'y a pas de respect de droits de l'homme.
Comment vous expliquez le fait qu'il y ait toujours ces mouvements migratoires alors que des migrants en Tunisie subissent des mauvais traitements?
La Tunisie, quand même, pour eux, c'est un pays très proche de la de l'Italie et ça coûte moins cher que partir de l'Italie. Maintenant, Voilà, ils ont créé toute une communauté et tout un réseau par rapport à des zones comme Sfax, l'Amra et aussi Jbinyene, où il y a une grande présence de la communauté des migrants de subsahariens. Donc, c'est ça la motivation essentielle qui pousse ces migrants de continuer à venir en Tunisie.
Il y a eu plusieurs mesures qui ont été tentées, mais cela n'empêche pas ce mouvement de continuer. Que faut-il faire, selon vous, pour freiner cette situation?
Freiner cette situation, c'est très difficile. Vous êtes de l'Amérique et vous savez bien comment sont les frontières par rapport à l'Amérique et le Mexique. Donc, c'est un phénomène qui est éternel. Donc, c'est comme ça qu'on est né, c'est comme ça que les civilisations sont commencées à apparaître. C'est immigrer, c'est un acte naturel par rapport aux êtres humains. Donc, c'est ça. Le problème que maintenant, il y a du sud et le nord, les Italiens ou bien les Français, ils peuvent voyager tranquillement. Par contre, un Ivoirien ou bien un Gambien ou bien un Nigérien, c'est très difficile de voyager ou bien d'immigrer. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des solutions.
Madi Karbaï, ancien député tunisien installé en Italie. L'Association américaine de psychiatrie affirme qu'à l'approche des élections, les niveaux de stress augmentent, quelle que soit l'affiliation politique. Le flux constant d'informations, les disputes stressantes et les inquiétudes quant à l'avenir du pays sont autant de facteurs qui pèsent sur le bien-être mental. Certains psychologues appellent cela le syndrome du stress électoral. Maxime Adams en parle dans ce reportage repris par John Lindon.
L'élection présidentielle du 5 novembre est source d'anxiété pour près des trois quarts des personnes interrogées dans le cadre d'une étude de l'Association américaine de psychiatrie. Certains psychologues qualifient ce phénomène de trouble du stress électoral. Lynn Boufka, de l'Association américaine de psychiatrie.
Le climat politique, les discussions sur les élections sont devenues beaucoup plus passionnées et beaucoup plus conflictuelles. Nous nous sommes demandé si cela avait un impact sur les individus. Il est certain que l'expérience rapportée par les participants a été une source importante de stress pour beaucoup d'entre eux, et d'autres recherches ont abouti à des résultats similaires.
Selon Kevin Smith, professeur des sciences politiques à l'Université du Nebraska-Lincoln, le stress politique affecte de nombreux aspects de la vie.
Un cinquième ou un quart des Américains font état de relations sociales rompues et même de problèmes au travail à cause de la politique.
Les recherches de Kevin Smith montrent que les jeunes ainsi que ceux qui ont des opinions de gauche et ceux qui sont plus impliqués dans la politique sont plus enclins au stress électoral. Le docteur Kiran Tindiali, spécialiste de la gestion du stress, connu sous le nom de Dr. Calm, a récemment publié un livre intitulé « The Mantra of Peaceful Politics », le mantra de la politique pacifique, dans lequel il donne des conseils sur la manière d'éviter le stress excessif pendant la période préélectorale.
Elections come and go.
Les élections vont et viennent. Les politiciens vont et viennent. Cela peut changer l'avenir de leur peuple de 10%, 20% ou 30%, mais pour l'essentiel, leur avenir, leur bonheur dépend de ce qu'ils font chaque jour, de leur comportement, de leurs émotions.
Méline Boufka affirme qu'il existe un moyen de sortir de ce malaise psychologique. Selon elle, il s'agit d'exercer un contrôle sur les sources d'information et de faire quelque chose, n'importe quoi, au lieu de faire défiler des articles sur la politique.
Le fait de nous exposer constamment à des informations, des images et des discours négatifs vont accroître notre sentiment général de négativité et de stress.
L'Association américaine de psychiatrie souligne qu'il est important de rester calme et d'entretenir des relations sociales, car passer du temps avec ses proches, avoir un mode de vie actif, manger et dormir sainement peuvent contribuer à réduire l'anxiété dans les jours qui précèdent l'élection.
C'est ici que se termine cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Pour plus d'informations en continu 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je suis Nanit Talani. La mise en onde de ce journal a été assurée par Firmin Max Kouyaouida, à la technique Kelvin Fowler. Restez à l'écoute pour plus de programmes passionnants à venir. À très bientôt.